Manitou, le drame de l'exil et ses visages, première bande.
Je vais d'abord essayer de récupérer rapidement le déroulement des études. Alors nous allons avoir deux cours d'études, deux textes, aujourd'hui et demain, de 6h30 à 8h. Et ensuite, jeudi matin et vendredi matin, de 10h30 à midi. Ça sera à midi. Jeudi, ça peut être midi et demi, mais vendredi, je suis obligé de faire un autre. Et alors, j'ai choisi deux textes sur le sujet général de l'exil. Un dans un livre d'un kabbaliste qui est le Shah Leora, dont je vais vous parler, et le second dans le Maharal. Alors, je pense que dans le cours de l'après-midi, nous allons commencer par le Shah Leora. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui et demain d'arriver à avoir l'ensemble du texte, sinon il y aura le plus loin possible. Et jeudi et vendredi, nous verrons un texte du Maharal. Donc le sujet général avait été projeté déjà l'année dernière. C'était la bifurcation de l'exil, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu dans l'exil d'Israël en général différentes civilisations qui ont été traversées. Mais dans ce dernier exil, qui est l'exil du deuxième temple, qui a duré 2000 ans jusqu'à nous, il y a eu ce que j'ai appelé, enfin peu importe le terme, une bifurcation d'identité du peuple juif entre Sfaradim et Ashkenazim. Et nous verrons un peu plus en détail dans les autres conférences que les Sfaradim sont Israël en exil dans le monde chrétien, c'est-à-dire d'après la typologie traditionnelle sur laquelle je reviendrai en détail. La descendance d'Ésaü, le frère de Jacob, et je commence à les unifier. Et alors je reprends. Les Ashkenazim sont les juifs. J'expliquerai ensuite le terme de juif dans ce problème. Ils sont, disons, Israël en exil dans la descendance d'Ésaü. Et les Sfaradim sont Israël dans la descendance de Ishmaël. Mais en fait, du point de vue traditionnel, cet exil est appelé l'exil d'Édom. Et c'est adjoint à Édom, Ishmaël. Tous les textes, il n'y a aucune exception, font foi de ce que ce troisième exil est appelé l'exil d'Édom. On ajoute aussi Ishmaël, mais c'est un appendice de l'exil d'Édom. Il me semble que nous avons dû déjà toucher à cette définition du problème. Il semble bien que les événements contemporains dévoilent cela, en tout cas en Europe. C'est-à-dire que la dispersion juive de l'exil contemporain est dans le monde de la chrétienté, le premier, une dimension qui concerne l'islam. Donc, comme je le disais, c'est l'année dernière que nous avons projeté cette étude. Vous avez dû voir que différentes conférences ont été changées. Et je dois vous dire d'ailleurs que le séminaire sera plus court cette fois-ci, parce qu'on nous a demandé de commencer que mardi, puisqu'il y avait le colloque des intellectuels et la maison, d'ailleurs, un colloque qui s'est bien passé, à mon sens. J'étais simplement hier soir à l'étude de M. Lévinas, et je pense que c'est très haut niveau. Beaucoup de choses ont changé dans l'atmosphère des études à Paris. Je reviens au sujet. Et je pense qu'il sera nécessaire, ou à travers vos questions, sinon dans tel ou tel point de l'analyse, de faire quand même référence aux grands bouleversements qui sont en train de se passer cette année. En tout cas, depuis Rosh Hashanah, vous avez dû remarquer que l'année Tachan, c'est bien l'année Tachan. J'ai choisi donc deux thèmes. Le premier concerne la définition de l'exil d'Israël dans Édom. Édom, c'est le nom de la nation fondée par Ésaü. En hébreu, c'est Esav, et le peuple de Esav se nomme Édom. Je résume brièvement ce que vous avez appris par ailleurs. Et pour la tradition, en particulier, c'est mis en forme dans les commentaires d'Abravanel, mais depuis déjà les textes talmudiques, la tradition de Esav, dans sa contestation d'identité par rapport à Jacob qui va fonder Israël, s'est réalisé dans l'histoire, dans la civilisation romaine. Donc il s'agit d'une période de temps de civilisation de 2000 ans, qui est très long. Alors quelques repères, nous aurons à y revenir dans les analyses des comparaisons et aussi des études. Il y a deux périodes dans l'histoire de Rome par rapport à notre sujet, la Rome païenne et la Rome chrétienne. Mais dans tous les cas, la référence des textes traditionnels à Edom se réfère au génie de civilisation que Rome a représenté dans l'histoire universelle, et en particulier pour nous, lorsque la civilisation romaine devenue chrétienne a repris l'interpellation d'identité entre Ésaïe et Jacob telle qu'elle nous a racontée dans le texte biblique. Bien, alors ceci dit, je voudrais vous raconter la raison pour laquelle j'ai choisi dans le charret oral le texte que nous allons étudier. Un souvenir qui me vient de très très loin. Et lorsque j'étudiais avec mon maître, notre maître, Jacob Bourdin, c'est comme un Dibracha, la Gada de Pessah. Il me semble que j'ai dû le raconter une fois, mais enfin, je vais le raconter un peu plus en détail. Il y a donc près de 40 ans. Et nous étions arrivés au passage de Shefor Hamatecha et la Goyim. Déverse sa colère sur les nations, à Chabri et la Rocha, qui ne sont pas reconnus, qui ne connaissent pas. Et à la nom de la Chote à Chablo. Alors, la Chote à Chablo. Le Caron. Et sur les royaumes qui ne t'invoquent pas dans la joie. Et là, je me souviens, M. Gordain, ce qu'on a eu m'a dit. Moi, j'arrivais d'Afrique du Nord, après la guerre, mais je découvrais le monde de l'Édom. Que je connaissais à travers les livres et les goïms qu'il y avait en Afrique du Nord. Les Arabes, on les appelait les Arabes, mais les goïms, c'était des Européens à l'époque. Et alors, me dit ça, c'est pour Ishmael. Chef Foram intérêt à la goïm, c'est pour Ishmael. Et puis, il m'avait expliqué que la rivalité entre Ishmael et Israël était beaucoup plus grave que la rivalité entre Édom et Israël. Vous suivez, mais s'il y a des choses à discuter et interroger. Pour moi, qui était un juif arabe et élevé en pays d'islam, ça m'a paru étonnant. Parce que nous avions, dans notre expérience de l'histoire juive, le souvenir de persécutions dans le monde chrétien par rapport au nationalisme beaucoup plus considérable que ce qui avait pu se passer dans le monde de l'islam. En fait, il fallait tenir compte d'un facteur, c'est que les persécutions, je parle du temps d'avant la Shoah, mais la Shoah y compris finalement, fait partie de cette histoire, des Ashkenazim dans l'exil des Dômes, bien qu'il y avait aussi des communautés sfarades dans le monde chrétien, comme il y a eu aussi certaines communautés ashkenazes qui sont restées de Philippe des Ashkenazes dans le monde musulman. C'est une histoire qui traverse des siècles. Dans 2000 ans, les juifs de la civilisation chrétienne sont les Ashkenazim, et les juifs de la civilisation islamique sont les Sfaradim, c'est clair. Et pour un juif sfarade, la mémoire historique, c'était que les persécutions que les juifs ont subies dans le monde chrétien étaient sans aucune mesure avec les persécutions importantes, graves. C'était un tout autre chapitre d'histoire qu'il faut apprendre que les juifs ont subi en pays d'islam. Il y avait un facteur duquel on ne tenait pas compte, c'était le nombre. Il y avait proportionnellement, pas à tous les siècles, mais proportionnellement beaucoup moins de juifs en pays d'islam qu'il y en a eu. Il y en a eu, on parle d'exil, il y en a eu en pays européen, surtout à partir de l'explosion démographique du judaïsme ashkenazi. Qui est assez récent, malgré tout, en Europe. Ceci se réfère à un problème de géopolitique, si j'ose dire, c'est lorsque la civilisation européenne s'est développée, l'importance des communautés juives en civilisation européenne est devenue beaucoup plus grande que dans les temps précédents où la civilisation était surtout islamique et donc les communautés juives étaient surtout sur la France. Je pense que j'ai suivi. Il y a aussi d'autres facteurs, il y a eu énormément d'épidémies qui ont décidé de connaître tout ça à un certain moment. Il y a eu aussi le fait qu'il y ait beaucoup de convertis au judaïsme ashkénaze, beaucoup plus qu'au judaïsme sfarade. En particulier, vous avez entendu parler de l'histoire des Khazars, et ce n'était pas le seul événement. Et donc, si on tient compte du facteur du nombre, alors évidemment, les persécutions que les juifs ont subies de la part des chrétiens, il suffit de dire des noms comme les croisades, l'inquisition, nous paraissaient beaucoup plus spectaculaires que les persécutions indéniables, mais en moins grand nombre que les juifs avaient subi en pays musulman. Quoique la mémoire juive contemporaine, surtout des juifs nord-africains, se souvenait surtout de la relation des communautés juives en pays d'islam dans l'époque coloniale. C'est-à-dire, par exemple, en Afrique du Nord, lorsque l'armée et la police étaient européennes, françaises, et qu'on avait oublié ce qui se passait avant l'arrivée des Européens dans les colonies. Enfin, je dis cela en particulier pour les Marocains. Et vous comprenez certainement pourquoi, sinon j'explique un peu plus. Je parle des juifs marocains. Et en disant les juifs marocains, je crois que c'est un exemple privilégié, mais dans ce que je veux dire. Pas les persécutions ne donnent aucun privilège. Parce qu'il y a une sorte de perte de mémoire immédiate qui fait que les juifs marocains installés en Europe, en particulier en France, ont une sorte de mirage d'une symbiose idyllique entre les communautés juives et la société marocaine arabe. Et il ne faut pas oublier que ce n'était pas du tout le cas avant l'arrivée des Français. D'ailleurs, même après l'arrivée des Français, il y a eu des pogroms. Je parle de ma jeunesse, et j'étais en Algérie, mais on savait ce qui se passait. Seulement, du point de vue du nombre, il est indéniable, et je parle du temps d'avant la Shoah encore, il est indéniable que les ashkénazis ont beaucoup plus souffert en quantité et en énormité des persécutions des chrétiens que les juifs qui étaient, disons, en situation d'esclavage, mais protégés légalement. Par la loi musulmane en pays musulman. Et il suffit donc de se remettre en mémoire deux termes comme les croisades en Europe et l'inquisition en Europe. Donc, par rapport à l'inquisition, ça commence en Espagne, c'est un cas particulier, dans le sens que le judaïsme espagnol était un judaïsme sfarade, c'est-à-dire un judaïsme judéo-arabe traduit en espagnol. Et l'espagnol étant une langue et donc une culture des pays chrétiens, de la chrétienté. Et c'est secondairement lorsque les Européens, lorsque les chrétiens ont reconquis l'Espagne, que l'inquisition sonne espagnole. Mais ce judaïsme était un judaïsme sfarade, pas un judaïsme ashkénaze. Et alors, j'étais très étonné. Et je me souviens très bien, parce que c'était probablement la seule fois de mes études avec M. Lambert, que j'allais dire, je n'étais pas d'accord, c'est pas ça, mais que j'étais étonné. Il m'avait dit très clairement, l'antisémitisme, c'était anachronique comme terme, mais l'antisémitisme d'Ismaël est plus grave que l'antisémitisme de S. Alors là, j'étais vraiment étonné. Finalement, par la suite, et bien après sa disparition, j'ai compris à ma manière une formule que j'ai dû certainement vous citer, qui me servira de pré-introduction. Et finalement, la persécution des juifs dans le monde chrétien, dans le monde de Edom, a accompagné la dispersion. Disons, ce qu'on pourrait appeler le terme de manière anachronique, l'antisémitisme chrétien a accompagné la dispersion dans le monde. Alors que ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme musulman, encore une fois, terme anachronique, mais vous comprenez ce qu'il y a derrière. Anachronique, c'est pas le mot, enfin impropre, parce que les musulmans sont censés être des sémites. Disons, l'anti-judaïsme, et bien, accompagne le retour, et c'est beaucoup plus grave. Et c'était le souvenir que je voulais citer. Et ce n'est que très récemment, en reprenant ce texte du Charles Léola, que j'ai mieux compris, en fait, et que je crois deviner quelle aurait été la source de cette indication. Je mets tout cela au conditionnel, parce que bien entendu, je ne sais pas du tout quelle était sa source, mais je me souviens de cette perplexité. Comment savait-il ? Parce que M. Gordon était un juif d'origine russe, je pense qu'il n'a jamais, ni de loin, ni de près, rencontré la culture musulmane, sinon dans sa connaissance. Alors c'est pourquoi j'ai pensé choisir ce thème, qui est extrêmement paradoxal, apparemment, vous allez voir. Ici, il s'agit d'un kabbaliste sfaradi d'Espagne, et qui va, je vous l'annonce à l'avance, privilégier de façon étonnante l'exil des Juifs chez Esav, en Édom, par rapport à l'exil des Juifs dans les autres nations. Et je vais expliquer le paradoxe, si suffisamment clair. On s'attendrait au contraire qu'un kabbaliste espagnol, sfaradi, dise l'inverse, et dise que la relation entre Israël et Ishmaël est plus dangereuse que la relation entre Ishmaël et Édom. Donc c'est l'inverse que nous avons lu et étudié. D'autant plus que dans ce texte, il n'y a aucune allusion à Ishmaël. Il n'y a que l'exil, c'est Édom, c'est Esav, et d'autre part, il y a l'exil dans les autres nations. Alors, c'est pourquoi, en introduction, j'avais tenu à indiquer que dans l'ensemble des sources traditionnelles, cet exil de 2000 ans, qui suit la destruction du deuxième temple, est toujours appelé l'exil de Édom. Bien que, encore une fois, une partie très importante de la bifurcation de l'exil dans les pays de l'islam soit l'exil chez Ishmaël. Mais, semble-t-il, la dimension d'Ishmaël, du point de vue de l'exil, est un appendice de la dimension Édom. Que l'exil, c'est essentiellement Édom. Je me souviens de poèmes, enfin de poutines, comment faire ça en français, D'ailleurs, étymologiquement, le mot de piyut, en hébreu rabbinique, ça veut dire poème. Ça se rattache au grec, à travers le grec. Baltan. Baltan, c'était le poète grec ancien, c'est un grec. Le grec ancien, Poyein, en latin, créateur. Donc, eh bien, il y avait des expressions Édom et Arabe. Édom et l'Arabie. Mais dans toutes les sources traditionnelles, en particulier lorsque les textes se réfèrent au Sarim, les anges tutélaires des nations, eh bien, Ishmaël n'a pas de sar particulier. Le sar d'Ishmaël, c'est le sar de Édom. Lorsqu'on suit les événements contemporains, et encore une fois, sans entrer dans un détail d'identification hasardeux, on se rend compte à quel point le conflit est avec Édom, mais il a une dimension Ishmaël. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Je pense surtout aux événements de cet été. On voit que vraiment l'importance de l'interpellation d'identité que nous avons avec le monde extérieur de la famille d'Abraham, c'est essentiellement avec la chrétienté, mais qu'il y a une dimension musulmane dont nous parlerons peut-être dans les années à venir un peu plus abondamment, ça dépendra des événements, mais qui est importante pour elle-même et qui, semble-t-il, n'a encore qu'une dimension du problème de l'identité Édom. Alors, on va commencer tout de suite ce texte, mais je veux dire quelques mots d'abord sur Rabbi Yosef Gatilia, qui est l'auteur du Sharei Ora. Alors, il s'agit d'un disciple de Rabbi Abraham Aboulafia, dont vous avez certainement entendu parler récemment, puisque c'était un ouvrage important qui est en train de paraître sur son œuvre, et qui s'appelle d'ailleurs lui-même Yosef Ben Abraham, et qui a vécu je vous ai donné des... J'ai noté des références un peu précises, oui, j'ai noté, d'après les historiens, qui a vécu de 1248 à approximativement 1325 en Castille. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, mais en particulier le Charleola, qui est, à mon sens, en tout cas, des études que j'ai pu faire dans ce domaine, la base vraiment de l'enseignement de la Kabbalah par écrit, de la Kabbalah espagnole. Et tous les kabbalistes postérieurs se réfèrent à cet ouvrage pour considérer comme vraiment fondamental. Et ceux qui voudraient, le temps venu, la maturité nécessaire venue, commencer à s'initier à la Kabbalah, aux sources écrites de la Kabbalah espagnole, indépendamment du droit, c'est un rabbin et d'autre part, eh bien, je pense que c'est vraiment une clé. Parce que c'est un des rares ouvrages. Ouvrage donc de livres écrits qui mettent en évidence qu'on ne peut absolument pas comprendre l'enseignement des kabbalistes sinon du dedans de l'enseignement de la Torah. Il y a un lien essentiel entre l'enseignement de la Kabbalah et l'enseignement de la Gemara, du Midrash et de la Bible. Il ne faut pas dissocier ces deux dimensions de la Torah et de la Bible. Vous devez savoir que beaucoup d'ouvrages paraissent qui parlent de Kabbalah et qui présentent la pensée de la Kabbalah comme une sorte de philosophie indépendante du judaïsme, qui pourrait exister en soi comme un système de lecture du monde, comme certains livres. Tout ça, quand vous dites en hébreu, ça n'a aucun sens. Un enseignement d'un mémé, qui était le Rache Persson, pas le rabbi actuel, bien sûr, soudain, et qui disait si quelqu'un qui ne connaît pas la Kabbalah, on ne peut pas dire qu'il a la connaissance humaine, puisque un homme sans la connaissance, c'est pas un homme, la Kabbalah, c'est la connaissance qui fait que la pensée humaine comprend ce qu'est le monde de l'homme et l'identité humaine. Comme nous disons dans la Tula, on est la dame d'Arat. Adam sans d'Arat, c'est pas Adam. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la Gemara, c'est pas un juif. Alors qu'est-ce qui est plus grave ? Un homme qui ne soit pas un juif ou un juif qui ne soit pas un homme ? Bon, vous avez compris qu'il y a deux écoles. Il y a quelques figurants. Il est évident qu'on trouve en tout cas dans cet enseignement cette unité, cette identité entre la Torah et Baal-Pé, de la Gemara, du Niglé, des enseignements dévoilés, et du Histar, des enseignements que l'on appelle cachés, mais dès qu'ils sont dits par écrit, ce qu'ils sont dévoilés. En tout cas, qu'ils sont donnés à être dévoilés. Ceci pour dire que c'est vraiment, pour beaucoup d'enseignants, la clé du vocabulaire, et l'enseignement de la Kabbalah. Voilà, je pense que c'est suffisamment suffisant cette introduction historique. Alors, on va prendre tout de suite ce texte. Alors, je vous ai fait distribuer, parce que on n'est pas arrivé à trouver à la bibliothèque le livre en hébreu français, mais en tout cas, le texte hébreu du chapitre de la Genèse, auquel nous aurons à nous référer pour les versets. J'espère que demain, on va le donner aussi en hébreu, mais sinon, vous apportez un texte de Dreshit en hébreu. Alors, je rappelle brièvement le sujet de ce chapitre 27 que vous avez en français. C'est l'échange de bénédictions entre Jacob et Ésaü. Alors, vous avez étudié déjà dans d'autres études la signification de cet enseignement du chapitre 27 de la Genèse que vous avez en France. Simplement, je rappelle le principe qui va être utilisé dans l'enseignement du Charleroi, c'est que l'identité d'Ésaü est finalement vouée à ce monde-ci, alors que l'identité de Jacob est vouée au monde à venir. Et l'identité de Jacob, qui est voué au monde à venir, je reviendrai sur le détail de ces définitions, est en danger dans ce monde-ci. Quel danger ? C'est-à-dire, étant donné la nature de ce monde-ci, une identité qui ne serait chez elle que dans le monde de la perfection des valeurs morales, est en danger d'être atteinte par l'imperfection de ce monde-ci. Et par conséquent, tant que l'histoire de l'identité d'Israël dans ce monde-ci n'a pas abouti à son tikkun, c'est-à-dire à sa plénitude, et elle est en danger d'être atteinte de faute d'être. C'est-à-dire, par définition, Israël est en exil dans ce monde. Et donc, l'enseignement général de la tradition sur ce sujet, c'est que Ésaü, c'est l'être de ce monde-ci, il est chez lui dans ce monde-ci, les empires, c'est les empires de type Ésaü, la civilisation terrestre, humaine, de la terre, mais de l'histoire, c'est Ésaü. Et c'est ainsi que l'histoire s'est développée. Ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Israël qui a fondé l'Empire romain. Ça a l'air énorme ce que nous découvrons là, mais c'est très simple. Ce n'est pas le judaïsme qui a été la religion de l'Empire, c'est le christianisme. La deuxième étape. Donc, Ésaü, c'est l'homme de ce monde. Jacob, c'est l'homme destiné au monde à venir, et par définition, Jacob, dans ce monde-ci, est en exil. Donc, lorsqu'il est en exil, il est dans l'exil des hommes. Parce que c'est suffisamment clair. Donc, c'est le principe du test que nous allons commencer à étudier. Vous avez le loisir de poser toutes les questions qui se posent à vous pendant l'étude, puis c'est une étude. Les conférences, c'est autre chose, mais l'étude, c'est autre chose. Alors, vous allez prendre le test. Alors là, je vous renvoie à Brit Benaventuri. Attendez, je vais vous donner le chapitre. Et lorsque Dieu a révélé à Abraham l'histoire de sa descendance, il l'a révélé dans une vision qui est appelée en hébreu Brit Benaventuri, la vision des chapitres 15, il me semble, dans la Genèse. On appelle l'alliance entre les morceaux. Voilà, c'est chapitre 15. En décrivant ce que serait l'histoire de sa descendance, si ta descendance est Israël, alors savoir, tu sauras qu'elle sera en exil. Et avec comme gros plan l'indication historique de l'exil qui sera l'exil d'Égypte et qui est modèle de l'exil des quatre empires qui suivent. Je vous reprendrai dans tout le chapitre 15. Ça se rattache à un problème général que nous avons étudié d'autre part, il me semble. C'est que la condition d'Israël, c'est la condition de créature par excellence. Or, la condition de créature par excellence, c'est la condition d'exil. La création sépare la créature du créateur. Donc, la créature est en situation d'exil fondamental, essentiel, à l'origine. C'est pourquoi, d'ailleurs, toute créature en quête de salut, comme on dit en français, finit par rencontrer le message d'Israël. C'est-à-dire qu'on peut sortir de lui. C'est ce que les Goïm appellent le salut. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, la question n'est pas donc... La question n'est donc pas... Bon, je parle de Patawet, mais parce que je ne traduis pas. Pourquoi y a-t-il exil ? C'est le miracle, c'est quand il n'y a pas eu. Je ne sais pas si c'est clair. Eh bien, oui.
S'il y avait une possibilité, ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité pour Israël qui n'est pas
écrit. Si. Il y avait une possibilité pour Israël qui est dispersion diaspora dans la gloire. Et il y a eu des moments dans l'histoire des patriarches et dans l'histoire d'Israël, des moments de présence en dispersion dans la gloire. Mais ici, nous sommes obligés d'employer deux termes simultanément, exil, avec toute la connotation négative et catastrophique, et d'autre part le terme de dispersion. Mais peut-être qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quand je dis exil en parlant de la condition des créatures, c'est éloignement, éloignement de la source de son propre être. Or, je crois que ça peut être formulé ainsi, les hommes, enfin, à travers l'histoire universelle, ont découvert l'existence d'un peuple dont la manière historique d'être était cette manière d'être de la créature, mais au niveau de l'être historique. Et ça explique, je crois que j'en ai parlé dans d'autres études, ça explique ce que les goïms appellent un mystère, c'est que le salut vient des Juifs. C'est-à-dire le salut vient des Juifs, l'annonce, le témoignage que le salut est possible vient de l'existence juive. C'est-à-dire lorsqu'on comprend l'existence juive, alors on découvre que le salut est possible. Je vais vous raconter comment je me suis formulé dans ma mémoire cette notion d'après quelque chose que j'entends d'une délivisienne immédiatement après la guerre. Et immédiatement après la guerre mondiale, on s'est aperçu un peu partout, en France bien entendu, vous allez voir que ça s'est développé depuis, mais ça avait commencé dans les pays anglo-saxons, d'un phénomène d'intérêt pour l'histoire juive, pour tout ce qui concerne le judaïsme, pour la littérature juive. C'est très simple à formuler. Je me souviens du temps de ma jeunesse, avant la guerre mondiale, trouver un livre concernant les Juifs, Israël, c'était pas comme tel encore, et le judaïsme, c'était très difficile. C'était une clandestinité de l'identité juive. Vous voyez, dans un temps, il y a un phénomène de librairie colossal sur Juifs, Israël, judaïsme, n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc, il suffit de trouver, d'inventer un titre, ça fait un phénomène de librairie. En général, l'auteur a la valeur de la hauteur du livre, ça marche. Alors, Elie Wiesel a expliqué ça de cette manière, c'est que subitement l'humanité découvre qu'elle est sous la menace de la disparition. Or, en même temps, elle découvre un peuple qui a toujours vécu comme ça. Alors on lui demande qu'on regarde. Vous voyez, c'est très paradoxal. C'est de Elie Wiesel. C'est clair. Alors je crois que ça rencontre ce qui s'est passé pendant 4000 ans, et c'est le témoignage de David Lapin, c'est que l'identité humaine, en exil, en tant que créature, a rencontré l'identité Israël qui témoigne de ce qu'on peut sortir de lui. Et vous avez bien noté la différence de niveau. Il y a un niveau métaphysique, la situation de créature, et un niveau historique, l'histoire des Juifs, en tant qu'ils sont des habités des Hébreux. Je crois que c'est la notion de théorie en langage chrétien, ça veut dire en hébreu Bessorat Torah, bonne nouvelle, c'est-à-dire l'humanité a entendu une bonne nouvelle en rencontrant Israël, que le salut est possible. De quoi s'agit-il? Et par exemple, vous voyez, dans la liturgie chrétienne, l'importance que prennent les, je dis ça en décalque, des instituts et des fêtes chrétiennes par rapport aux fêtes juives, à peu près toutes les fêtes, il y a un certain nombre de fêtes qui n'existent pas dans le calendrier chrétien, mais ils ont des fêtes essentielles du calendrier chrétien, dans le sens qu'il y a la Pâque. Eh bien, ceux qui ont appris le christianisme savent qu'est-ce que représente la Pâque pour les chrétiens. C'est l'expérience que le salut est possible, que le sauveur va sauver. Par contre, et qu'est-ce que c'est Pâques, originellement? C'est l'expérience qu'on peut sortir des vies. C'est bien ça. Vous voyez comment c'est transnommé. Enfin, je veux dire, c'est ça. Alors, pourquoi nous parlons de cela, immédiatement, de cette parenthèse sur les cités divisées?
Oui, parce que tout d'un coup, on accorde. Parce que l'important, c'est d'ici un temps, je ne sais pas
d'ici le. Ah oui, c'était votre question. Alors, répétez la question.
C'est de savoir si l'exil est inévitable pour le peuple juif.
Voilà, ce qu'il faut d'abord découvrir, c'est l'exil, c'est la condition de la créature. Le monde est en exil. Bon, je ne vais pas parler en langage théologique, mais vous devinez ce qu'il y a derrière. Le monde est en exil de Dieu. nous sommes éloignés de la source de l'être, donc nous sommes dans l'exil à un niveau métaphysique absolu. Or, il y a dans l'histoire du monde, sur la planète Terre, il y a un peuple dont la manière existentielle d'exister, c'est d'être en exil, et de vivre cela et de le savoir. En fait, le savoir, oui, il n'y a pas pire exil, on ne sait pas quand on est comme ça, mais en France, ça peut être.
C'est naturel.
Grave.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'exil est naturel?
À condition de comprendre. Non, l'exil n'est pas naturel. L'exil est la condition de créature. Et par conséquent, ce qui est naturel pour Israël, c'est d'être Israël. Et il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle, avec un terme impropre, à moyen de lucider le sens, la situation de diaspora, de relation aux nations. Ça peut être dans la gloire. Ou bien, et on y arrivera, ou bien c'est la situation d'exil dans le sens habituel du terme, c'est-à-dire le déporté, le métèque, l'étranger, qui ne peut pas être intégré parce qu'il est désintégré. Enfin, vous comprenez vos problèmes politiques contemporains en France. Et lorsque les Français ont donné la citoyenneté aux Juifs, alors ils ont oublié que ça voulait dire l'exil. Ils ont parlé de diaspora. C'est clair. Lorsque vous dites que l'exil, c'est la situation naturelle de l'histoire juive, alors il y a différents niveaux, et c'est ça, en tout cas, ça vous explique que ça veut dire l'attente du Messie, à condition de comprendre qu'il y a deux niveaux dans cette attente, le retour à la situation de Israël sur sa terre et la fin de l'exil du monde qui est la fin du temps historique. Bon, j'ai dit beaucoup de choses dans cette phrase ramassée, c'est votre question qui l'a provoqué, mais vous comprenez quel est le problème. Je veux dire que ce qui est naturel pour Israël, c'est de porter le témoignage que l'identité réelle, c'est la sortie de l'exil. Est-ce que c'est plus clair? C'est ce que les goïms appellent le salut qui est Israël. Je répète ça. Aujourd'hui, j'ai toujours été frappé lorsque j'ai commencé à étudier les évangiles pour savoir pourquoi je n'étais pas chrétien. De ce verset des évangiles, le salut vient des Juifs. Il n'y a pas écrit le salut vient du Christ. Mais le salut vient des Juifs. Alors, qu'est-ce que les goïms qui ont vécu cela voulaient dire par là? Que en rencontrant l'identité juive, ils ont rencontré une bonne nouvelle que le salut est possible. Et que c'est que la foi des Juifs, c'est qu'on peut sortir de. Alors, transposer ça du niveau historique au niveau métaphysique, et vous avez la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, je vois.
Dans l'évangile de Jean, le contexte et l'intention du récit, sans doute, est dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, qui dit, mon père adorait cette montagne, mon père Jésus, mais vous, etc. Alors Jésus répond, je savais qu'il y a des Juifs. Dans ce contexte, c'est simplement le tort donné au Samaritain. Mais en fait, cette parole, la salut vient des Juifs, depuis 2000 ans qu'elle est écrite, fait un travail formidable dans les gens chrétiens. Il la comprend de plus en plus comme vous dites.
Très récemment. Très récemment. Je ne crois pas depuis 2000 ans. C'est depuis la Shoah que ça a changé. Et d'ailleurs, je me souviens que vous m'avez déjà dit, quand j'avais déjà dit, et vous étiez ainsi là. Mais non, je crois, là il y a un problème, c'est que on ne pourra pas oublier que cette découverte que vous décrivez ne s'est produite qu'après la Shoah. Ça, c'est un péché originel de la réconciliation, éventuelle. On doit dire à la vérité que déjà avant la guerre mondiale, il y a eu un mouvement qu'on appelait en nom chrétien le ressourcement biblique. Vous allez m'aider à retrouver le nom, c'était les Châles. On appelait le Madeleine Châles. C'était des protestants ou des catholiques? Celui qui s'appelle Châles, C-H-A-S-L-E-S. Des Français. Ça vous dit ce nom-là. Bon. C'est ça. D'accord. Et il vivait dans la région parisienne, d'ailleurs, je me souviens tout ça dans ma mémoire. Et il y a eu un mouvement de ressourcement public qui allait dans le sens, mais c'était vraiment les lueurs de l'aube avant l'aurore. Ça n'est devenu réel qu'après la Shoah. Et là, c'est un problème. Pourquoi il a fallu attendre? Bien. Alors, dans tous les cas, il y a là un sujet important pour entrer dans ce texte, parce que nous allons voir que ça semble aller de soi pour les kabbalistes quand vous dites que cette destination de l'exil était, semble-t-il, inévitable. Mais je tiens à cette précision. Le lien aux nations pourrait être, disons, le lien à l'universel humain pourrait être dans ce qu'a connu Abraham à certaines époques, Jacob à certaines époques, Joseph à certaines époques, certaines communautés juives dans l'histoire, dans la gloire, de la reconnaissance d'être les porteurs de salut, et comme on dit en français, les théophores. Mais ça pourrait être aussi, comme on va voir, l'exil dans le sens habituel du terme, ce que nous avons connu malheureusement avant l'émancipation en Europe et depuis l'émancipation en Europe, malheureusement. Voilà. Alors, prenez le texte. Au milieu de la page 109, là je vous l'ai indiqué. Rechel Kitsa. Bien, je vous ai mis dans la marque les références qui renvoient au numéro des versets dans le chapitre. C'est la Genèse. J'ai dû corriger que même dans le texte imprimé, il y avait des erreurs de référence. Mais je pense que c'est suffisamment clair. Sinon, je vous les invite à là. Bechintimsa Beitzrak. Et ainsi, tu trouveras, à propos d'Isaac, dans le récit de ce chapitre 25, qu'il est écrit au chapitre 25. Oui, c'est plus loin. Au chapitre 25, verset 28, vous n'avez pas ce chapitre. Chapitre 25, verset 28. Voyez, Ehab, Yitzhak, et Esav, Yitzhaï, Béfi. Il y a un verset où la Torah raconte que lorsque les deux enfants sont nés, Jacob et Esaü, Isaac aimait Esaü, Yitzhaï, Béfi, car il avait le gibier dans la bouche. Yitzhaï, comprenez ce terme en hébreu. Ça veut dire le produit de la chasse. Il y a beaucoup de textes au sujet de ce verset, mais je vais isoler celui qui est utilisé pour notre sujet. Alors on apprend que, alors que Rebecca va aimer Jacob, va préférer Jacob, Isaac aimait Esaü, mais le verset précise qu'il s'aïe des filles. Car il avait, je ne sais pas comment je parlais tout à l'heure, vous allez dire, le gibier là, le goût du gibier, s'aïe des filles. Alors le rabbin va poser la question suivante. Vechi, tzadik gadol ke Yitzhak, est-ce qu'un grand juste comme Isaac, Avinu, notre père, Allah va shalom, que celui sur la paix, qu'on a d'emblée dans le style des tabernacles, She'en ashrina nifredet mimenu, de qui la présence de Dieu ne s'est jamais écartée, afinu sha'achat, même pas un instant, ihi ohev racha gamu, temu raisa, pourrait aimer un méchant parfait comme Esaü. D'ailleurs, l'étonnement du commentaire, comment le verset peut dire que Isaac a aimé Esaü. Indépendamment de l'explication qu'il va nous donner, parce qu'il avait le goût du gibier dans la bouche, comment le texte commençait à dire que c'est écrit en termes de Torah que Isaac a aimé Esaü. Et dès qu'on entend gibier, on sait que Esaü était un rachat, un chasseur. Pas besoin d'expliquer, c'est clair. Une question encore plus fondamentale, comment dans la maison de Isaac, il peut...